Congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. Donc c'est Cannabis Circus sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et donc nous allons faire la revue de presse hebdomadaire avec quelques faits divers, avec deux, trois petites choses qui se passent à la télévision et qui sont intéressantes, avec l'intervention de Philippe Solers qui a été assez étranger et assez intéressante, très, très incisive. Ça, c'était...
La semaine dernière, mardi ou mercredi.
Voilà, sur Quotidien. Et puis, il y a eu France 2 aussi qui a fait des trucs. Un petit dossier. Donc, on parlera de ça. Puis, c'est vrai qu'il y a des trucs souvent à la télé de temps en temps. Je tombe dessus et c'est marrant. Sinon, enquête... donc, il y a le sociologue aussi, donc Kokoreff, qui est aussi interrogé.
Michel Kokoreff.
Kokoreff, qui est interviewé dans 20 minutes, on reviendra aussi là-dessus avec un communiqué de presse aussi du Cirque sur les saisies des douanes. Voilà un petit peu un des sujets. Il y a aussi Libération qui parle de l'inefficacité de la répression contre les drogues et la prostitution. Ouais, c'est un petit mixte qui est assez intéressant.
Bah, c'est une tribune de Lilian Mathieu, qui est sociologue à Lyon, qui a beaucoup travaillé sur la prostitution et qui est bien connu de certaines associations lyonnaises. Et donc là, qui signe une tribune particulièrement cinglante à destination des politiques sur la question de l'usage de drogue et de la prostitution. Voilà.
Voilà, et puis après, on ira faire un tour un peu à l'étranger, un petit tour aux Pays-Bas, où il parle de nouveau de la légalisation de la culture. Après avoir fait un coup de balancier sur la répression, ils reviennent sur l'ouverture en se disant qu'avant ils étaient un peu précurseurs et maintenant ils commencent à être à la traîne par rapport aux autres pays qui légalisent. Voilà, dans les autres pays qui légalisent, c'est le Canada où ça va arriver, un de ces jours, c'est prévu pour cet été, sans doute la fin de l'été, et sinon il y a les universités aussi qui s'y mettent et qui préparent des certificats professionnels de culture. On reviendra un petit peu aussi sur ce sujet. Et puis vers... c'est un festival aussi qui va se passer aux États-Unis, un festival Marley.
Organisé par la famille Marley, oui.
Organisé par la famille Marley, tout à fait, en Californie, où il sera bienvenu de fumer de la weed, puisqu'elle sera...
ils font ça pour en faire la promotion de la marijuana, ils sont au moins clairs là-dessus, quoi.
Voilà un petit peu, et puis on finira sans doute par l'article dont on n'a pas eu le temps de parler la semaine dernière, à moins qu'on le fasse plus tôt. On verra bien comment on tournera notre revue de presse. C'est un blog d'une ex-policière qui analyse la politique qui veulent nous mettre de la contraventionnalisation et où on en est, avec une analyse assez pointue et assez intéressante. Mine de rien, voilà pour un sommet encore assez chargé avec une émission où on est en retard. Je ne sais pas si on tiendra le coup, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude.
On tiendra le coup, mais on ne sait pas si on aura au bout de notre sommaire. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc on va commencer par
le premier fait divers en fait qui est vraiment relaté en quatre lignes par l'édition Loire du Progrès qui nous parle. Alors c'est vraiment un tout petit article, mais le ton employé est bien celui qu'on connaît dans le Progrès lorsqu'il s'agit de parler de phénomènes sociaux. Là, en l'occurrence, c'est la question du cannabis, et donc ça nous parle d'un jeune homme de 22 ans qui a été arrêté par la police, alors qu'il a visiblement été arrêté en flagrant délit de consommation de cannabis, parce qu'il fumait un joint, donc c'était il y a une dizaine de jours. Et donc il a été arrêté, la police a également retrouvé sur lui un peu de cannabis, quelques grammes de cannabis dans sa boîte aux lettres, également dans une boîte de lessive, puis il en avait aussi dans les chaussettes. Et quand la police est arrivée, il a tenté de s'en débarrasser. Alors quand il a été arrêté, puis il a essayé de s'en débarrasser au commissariat central à Saint-Étienne. Voilà, donc il fume bien un joint dans la rue, et donc il a quand même été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Ce qui est quand même
12 mois de prison,
dont 6 mois avec sursis.
Donc 6 mois ferme. Et donc, a priori, il y va, quoi.
Oui, voilà, excuse-moi, oui. Donc 6 mois, mois sursis, mais 6 mois.
Estomaqué pour un seul joint, quoi. Alors, c'est consommation, c'est pas détention.
Bah, un seul joint, en même temps, plus
de la
ils ont trouvé voilà, quelques grammes dans sa boîte aux lettres, dans ses chaussettes, etc. Et du coup, voilà, il a été condamné assez fermement, effectivement.
Ah, très sévèrement, même, on va dire.
Oui, très sévèrement. En plus, dans l'article, il ne parle pas d'éventuelles condamnations précédentes. Donc, on ne sait pas s'il a eu un casier, s'il était primo-délinquant.
Ça m'étonnerait qu'il soit primo-délinquant, mais bon, faudrait creuser, mais bon, voilà. Autre fait divers. Alors par contre, c'est plus du cannabis thérapeutique, et là c'est plutôt assez intéressant.
Donc ça se passe dans l'Allier cette fois.
Voilà, c'est à Moulins, c'est ça.
C'est là-bas qu'il a été jugé, effectivement.
Il a été jugé, oui. Donc c'est un habitant du bocage bourbonnais, comme ils disent, qui est atteint qui a été opéré d'un cancer. Donc évidemment, il a toutes les preuves, tous les certificats médicaux, toutes les justifications de son cancer. Il a eu l'ablation. Alors je cherche ce que c'était. Bref, il a eu quelque chose, voilà.
Ablation de 3 de ses côtes.
Voilà, avec un poumon abîmé, des séances de rayons, bref. Et il prenait beaucoup de morphine donc pour se calmer et pour pas
pour calmer sa douleur
et toutes les douleurs. Néanmoins, il n'y arrivait pas, et avec un peu d'herbe, il arrive à beaucoup mieux se soigner ses douleurs. Donc il plantait lui-même ses pieds au milieu de ses plants de tomates. Il a été, c'est pour ça qu'il est donc évidemment au tribunal. Et donc, au final, comme c'est un cas assez singulier, la procureure Audrey Gallo en a tenu compte en demandant à minima une peine de 100 euros d'amende. Elle dit « J'entends les justifications données d'un usage de cannabis à but thérapeutique. J'entends aussi votre situation particulière. » Mais en France, a ajouté la procureure, il n'est pas permis aux personnes atteintes de maladies graves de prendre du cannabis. Voilà. Et au final, la personne ne payera même pas les 100 euros d'amende, puisque les juges l'ont dispensé de peine.
Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle cette fois pour une personne malade qui se soigne avec du cannabis. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. On a déjà vu des situations où des personnes bien malade se voyait condamné. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cet habitant de l'Allier. Voilà. Et nous en réjouissons pour lui, en tout cas. Ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a dans certaines cours, certains magistrats sont compréhensifs.
Voilà. Est-ce que Philippe Solers fait partie des faits divers ?
Allez, si, on va en parler vite fait. C'est pas non plus l'info du siècle. Donc, c'est un article qui nous vient de programme-tv.net, donc un média plutôt pas, voire pas du tout spécialisé dans le traitement des actualités sociales ou sociétales. Mais là, ils en parlent. Pourquoi ? Eh bien, parce que donc Philippe Solers s'était invité à la télévision sur le plateau de l'émission Quotidien animée par Yann Barthès. Et
Philippe Solers, c'est un écrivain assez âgé, il a 81 ans, il en est à son 81e livre. Et voilà, c'est quand même quelqu'un qui amuse la galerie en promouvant la consommation d'alcool et de cannabis.
Bah, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. J'ai vu son intervention. Je trouve que présenter ça comme quelqu'un qui a fait la promotion d'eux, c'est un peu. Un peu exagéré. Voilà, il a été interviewé, il a donné son point de vue, son sentiment. Et à un moment, alors il parlait effectivement de boire de l'alcool, de boire du rouge, etc. Ah, parce qu'il a demandé à l'équipe de Yann Barthès de lui mettre une bouteille de rouge dans sa loge. Donc c'est quelqu'un qui depuis toujours est connu pour aimer les plaisirs de la vie, être un bon vivant. Hein, il s'en est jamais caché. Et à un moment.
Alors il parlait de cette bouteille de rouge, donc Yann Barthès se dit, mais il faut en boire avec modération. Et lui, évidemment, oh non.
Et là, c'est trop politiquement correct pour lui. Alors en plus, voilà. Yann Barthès invitait également dans son émission Anthony Bajon, qui interprète un toxicomane dans un film intitulé La Prière, un film de Cédric Kahn. Et Philippe Solers qui dit, le réalisateur Philippe Kahn dit qu'il existe des ponts entre la drogue et la foi. Donc il n'a absolument pas hésité à dire, évidemment, voyons les ponts, c'est l'imagination, c'est la ferveur qui se déclenche brusquement, c'est l'abandon de la routine, c'est l'expérience, c'est quelque chose de fondamental. Moi, je plaide pour la vente libre du cannabis. Il l'a dit comme ça, hein, donc c'est pour ça que je le fais. Et il ajoute, ça me paraît une chose qui aurait déjà dû avoir lieu en France. C'est effrayant. Et il ajoute comme ça, moi, vous savez, j'ai fumé du très bon afghan noir, vous savez. Et là, Yann Barthès lui coupe la parole, en rigolant, certes. Et lui dit, mais non, on n'a pas le droit, Philippe Solers, on n'a pas le droit, c'est comme l'alcool, vous êtes impossible. Sur un plateau de télé, vous faites la promo de tout ce qui est interdit. Voilà.
Impossible, donc réel. Répondu donc Philippe Solers.
Mais je vous cache pas que j'ai vu ça un peu par hasard avant de partir bosser, parce que il m'arrive de travailler la nuit. Et j'ai vu la réaction de Philippe Solers et tout, c'était déjà franchement drôle. Et en plus, ça fait du bien. Au moins, il y en a qui n'hésitent pas à en parler. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ce petit article, et par rapport à ce qui s'est passé aussi pendant ce court moment, parce que ça a duré très peu de temps, hein, tout ça, hein, dans l'émission, ce qui est incroyable, c'est de voir comment vraiment les journalistes, notamment à la télévision, sont vraiment dressés pour ne pas aborder cette question.
Bah, surtout, voilà. S'ils l'abordent, ils sont attaqués.
Non mais pourtant, je veux dire, tu regardes souvent, c'est exagéré. Enfin, je veux dire, là, on en est vraiment arrivé à un point où, on est dans la censure, quoi.
Néanmoins, très régulièrement, ça sort dans les émissions des petits trucs, des petites blagues, et toujours quand même sur le fait de la légalisation, surtout avec tout ce qui se passe, avec les faits américains, etc. Il y a des émissions. Je pense que la tournure des choses changent un peu, l'esprit change, et là des choses comme ça, même si Barthès réagit, il se réagit, il repasse le truc deux fois, et voilà, ça se sait.
Il repasse le truc deux fois
parce qu'il a son émission et le lendemain, donc, et puis c'est pas coupé, etc. Donc même si un jour c'est en direct, le lendemain c'est repassé dans le montage.
Oui, certes, mais bon, je suis désolé, on peut pas s'empêcher de constater que là il y a une véritable omerta sur le sujet. On ne peut pas en parler. Alors je suis d'accord, on peut pas parler.
Article L34-21.
Je suis pas d'accord. Faut voir à quel point, faut voir comment sont présentées les choses au mois de novembre, quand c'est le moment du Beaujolais nouveau. Voilà. Là, pour le coup, il n'y a plus de censure, il n'y a plus de... Non. On voit des gens qui s'expriment... début novembre, Yann Barthès a couvert le moment où le Beaujolais nouveau est sorti. Ils ont fait un petit reportage là-dessus qui était d'ailleurs très très drôle, et on voyait tout un tas de gens qui étaient morts de rire et qui étaient bourrés, en fait, hein, tout simplement. Et là, ça passe, quoi. Alors après, on peut dire, on peut pas faire du prosélytisme et de la promotion pour l'alcool, et encore moins pour le cannabis,
ça n'empêche pas que pour l'alcool,
c'est de l'hypocrisie.
C'est vrai qu'il y a eu, y compris chez Yann Barthès, un truc sur la fête de la bière en Irlande, là, qui était ce week-end, la Saint-Patrick. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la Saint-Patrick? On se cuite ou on se marie? Donc, ils se disent, on va se cuiter.
Ou les deux.
Ouais, je ne sais plus quelle était la blague, mais bon, en tout cas, ils avaient bien dit qu'ils allaient se quitter. Donc, c'est vraiment deux traitements différents entre les drogues légales et les drogues illégales. Mais voilà, il y a des lois, les gens sont obligés de les respecter, sinon ils se font taper dessus par le gendarme du...
Mais de quand date la loi Evin?
Ah mais la loi, oui, mais celle-là
1991.
Oui, et elle est de moins en moins impliquée. Là, non, mais je suis d'accord avec toi.
Il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant en 2002 que le cirque a vraiment constaté, parce que jusqu'en 2002, on était quand même régulièrement sollicité par des médias pour faire des reportages, des émissions qui parlaient du cannabis, et on avait plutôt affaire à des médias quand même relativement bienveillants. À partir de 2002, tout a changé. On s'en est rendu compte, faut pas le nier, et les médias sont devenus beaucoup moins bienveillants et nous ont plutôt présenté par la suite comme une espèce d'organisation obscure, faisant la promotion des drogues, blablabli, blablabla. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, les choses ont vraiment changé au début des années 2000.
Ah oui, mais on est plus dans les années 2000 là.
Ce qui se passait depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est un continuum depuis 2002. Sur comment on parle de la question des drogues et du cannabis, à la télé notamment.
L'exemple de Solaire, c'est ce qui s'est passé.
Ah oui, mais on lui coupe la chic immédiatement. Il ne peut absolument pas s'exprimer et expliquer ce qu'il veut dire. Bah, je suis désolé. Non, tu l'as pas vu, toi. Tu le lis là, mais tu l'as pas vu en direct. Moi, je te dis, je l'ai vu.
Si.
Tu l'as vu, d'accord. Oui. Bon, on lui a coupé la chic tout de suite. Alors, c'était sur le ton de la rigolade, etc. On est bien d'accord. Il n'y avait pas d'animosité contre lui.
Mais ça, moi, j'en ai rien à foutre qu'on lui ait coupé la chic.
Ah bon ?
Moi, est-ce que je remets ?
T'en as rien à foutre que toi, on coupe la chic à des gens quand ils veulent s'exprimer sur un sujet, comme celui-ci notamment.
Non, parce qu'il s'est exprimé sur ce sujet. Et
mais
c'est repris,
il s'est exprimé et ça quoi ? Il a dit deux phrases.
Mais ça suffit. Il y en a d'autres, il y a Marceau aussi qui l'a dit, il y a plein de gens qui te parlent de fumettes et qui disent qu'ils en prennent.
Oui, mais ils se disent qu'ils en prennent, hop, on leur coupe la parole.
Oui, plus ou moins, carrément. Ça dépend.
Mais voilà.
Mais là, je pense qu'il a bien insisté correctement.
Il a bien insisté, il a dit qu'il avait fumé du bon afghan noir, voilà, et c'est tout. Bon, c'est rien d'extraordinaire non plus. Bon, à limite, ça, on peut peut-être lui reprocher. Après, le fait qu'ils disent que ça aurait pu déjà avoir lieu en France, la légalisation, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux à dire
bon,
ça, quoi.
Mais il, oui. Bon, bref. Bon. Allez, un peu de musique.
Allez, musique.
Et on écoute de la pop. Ça date des années 90. Chris Knox, c'est néo-zélandais. Un morceau qui s'appelle Not Given Lightly.
It's morning, time to wake now. Your body and mind entwined, we'll have to break now. But I want your flesh, your warmth to stay beside me. Oh, how I wish you could be deep inside me. Show me your eyes, your love most tender feelings, and I'll give you mine. Be truthful and revealing, 'cause it's you that I love, and it's true that I love. It's love not given lightly, but I knew this was love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. When we're alone, I cannot always face you. Maybe my mood won't let these arms embrace you. But that doesn't mean my love's somehow diminished. Give me the time to show our love's unfinished. 'Cause it's you that I love, and it's true that I love, and it's love not given lightly. Was a love, and it's you that I love, and it's more than what it might be. I need your body, your mind, and your emotions. Shed me your tears till I drown in your oceans. 'Cause it's you that I love, and it's true that I love, and it's love that I've given lightly. But I knew this was a love, and it's you that I love. It's more than what it might be. love song to John and Leisha's mother. This isn't easy, I might not write another, but it's you.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, 102.2, Cannabis Circus, la suite.
Ouais, donc après Philippe Solers, là on vient de s'expliquer un peu pendant la coupure musicale. Bon bref, on en reparlera prochainement, peut-être pas de lui, hein, mais de, un peu de ce qui se passe à la télé et de cette impossibilité d'en parler réellement d'une manière ou d'une autre en fait. Bon. Alors, en attendant, il n'y a pas très longtemps, c'était le rapport des saisies douanières. Avec toujours cette espèce d'autosatisfaction du politique par rapport à une hausse des saisies. C'est hallucinant. Alors, le cirque réagit par rapport à ces révélations hein, qui ont lieu chaque année à peu près aux mêmes époques. Donc voilà, le cirque réagit. Je vais vous lire le communiqué de presse du cirque de la semaine dernière, mercredi 14 mars. Donc d'abord le communiqué de presse reprend les propos de Gérard Darmanin, donc qui disait il n'y a pas très longtemps: j'éprouve une grande fierté à porter à la connaissance de nos concitoyens le bilan de leur action en 2017, l'action des douanes. Nous assène donc Monsieur Gérard Darmanin en édito du rapport 2017 des douanes françaises. Mais il n'y a pourtant pas de quoi se vanter d'une augmentation aussi importante des saisies de drogue sur le territoire. Hein, plus 142,1% pour la cocaïne, plus 31,3% pour le cannabis. Il ne s'agit en effet pas d'une preuve d'efficacité, mais d'une inquiétante explosion des trafics. L'on sait en effet que, quelles que soient les quantités interceptées, elles ne représentent guère plus que 10% de ce qui circule sur le marché noir en France, en l'occurrence. Cela se vérifie par la remarquable absence de fluctuation des prix malgré les saisies. Au contraire, assistons-nous plutôt à une baisse des cours des drogues. Qu'est-ce à démontrer si ce n'est la totale incapacité du dispositif répressif à contenir ce phénomène ? Les risques judiciaires semblent en effet bien peu dissuasifs au regard des formidables profits potentiels de ce négoce. Cet échec, désormais admis par ceux-là même qui hier encore prônaient le tout répressif, ne semble cependant pas susciter la moindre remise en cause du côté du gouvernement. Que l'argent du contribuable soit dilapidé tandis qu'on ne cesse d'invoquer des économies budgétaires relève de l'aveuglement, pour ne pas dire de l'incompétence. Et le cirque de reposer toujours la même question, à savoir quand l'État se décidera-t-il enfin à prendre la question de la politique des drogues au sérieux, à s'orienter vers la seule alternative permettant de mettre un terme au trafic, au règlement de compte, à la corruption, à l'enrichissement du crime organisé, la légalisation des drogues en des modalités différentes selon chacune. Nous en sommes certes loin encore, ce qui ne nous empêche pas, pour ce qui est du cannabis, d'y réfléchir afin de ne pas tomber dans le piège du libéralisme à la nord-américaine ou le contrôle étatique à l'uruguayenne. Il existe d'autres solutions que le cirque développe, comme les coopératives et les AMAP, une production et une autoproduction locale respectueuse de l'environnement, la reconnaissance de l'automédication, la préservation des variétés anciennes de chanvre cannabis, bref, une surveillance qualitative du marché plutôt que contraignante des cannabinophiles. Que l'on signe enfin l'armistice et déclare la guerre à la drogue perdue par les autorités d'une part, mais aussi par les réseaux criminels, alors privés de leurs principales ressources, et qu'on laisse aux vainqueurs, les usagers, en tout cas les plus investis et motivés d'entre nous, le soin de s'occuper d'une filière n'ayant cependant pas attendu la légalisation pour s'exprimer culturellement et économiquement. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, alors, on continue avec
un article de 20 minutes qu'ils ont fait, parce qu'il y avait sur France 2, une soirée spéciale, la drogue, un échec français. Donc déjà, quand même, ils font des reportages aussi, quand même, je trouve, même ça évolue un peu.
Mais... Non, mais 20 minutes, c'est pas direct matin.
Y compris plus, France 2, avec le reportage qu'ils ont fait. Parce que même si M6, ils font toujours des trucs...
avec la Villardière, oui.
Et con. Il y a 2-3 trucs de fond, quand même, qui avancent, y compris sur France 5 aussi. Quand on regarde, il y a quand même des trucs qui viennent un peu profonds, un peu intéressants. Là, c'est 20 minutes donc, qui a interviewé Kokoreff.
Michel Kokoreff, oui. Voilà. C'est un sociologue.
Voilà, et donc ils expliquent donc depuis des dizaines d'années, les gouvernements successifs freinent des mesures pour lutter contre les trafics du cannabis. Alors qu'est-ce que ça devient, hein, la France est l'un des plus répressifs. Pourtant, le nombre de consommateurs est toujours le plus élevé. Donc voilà, ça fait des années qu'on le dit. Donc souvenez-vous, il y avait Cazeneuve qui annonçait en 2015 des mesures choc destinées à éradiquer les trafics de drogue qui pullulaient à Saint-Ouen. Il y a eu les forces de l'ordre qui ont été envoyées, il y a eu des effets plus ou moins visibles. Donc le trafic de drogue est toujours aussi important qu'avant, même si c'est pas tout à fait pareil, c'est un petit peu transformé pour répondre aux pressions policières.
Puis c'est un petit peu déplacé probablement. Ce qu'on appelle, c'est l'effet plumeau. Voilà, on met des caméras de vidéosurveillance à un endroit ou des brigades de police, puis ça se déplace ailleurs. Donc c'est l'effet plumeau.
On a déjà parlé de Saint-Ouen, vu que c'est là qu'il y avait eu l'histoire de la bavure policière et du viol, ou en tout cas.
De Théo. Dont on a parlé la semaine dernière.
Tout à fait.
Un article de Mediapart très intéressant.
On vous parle toujours donc de ces deux brigades. Il y a toujours la BAC et il y a toujours la BST, donc la brigade anticriminalité et la brigade spécialisée du terrain, et qui se tirent la bourre et qui veulent montrer que chacune est la meilleure. Donc deux grandes annonces ont été faites, mais derrière les moyens n'ont pas suivi malgré et il y a toujours pas d'investigation en fait. Ils sont juste là en fait pour faire un peu de chiffres et un peu de chiteux, comme on pourrait dire.
Alors celui qui dit que les moyens n'ont pas suivi, c'est un porte-parole du syndicat Unité CSGP Police FO en Ile-de-France. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai, hein, depuis Sarko, on sait qu'il y a des tas de postes de gens de police qui ont été supprimés. Et puis à chaque fois qu'ils nous disent « Oh là là, on va en mettre plus et tout », en fait, ils n'en mettent pas, quoi. Ils ne mettent pas plus de policiers sur le terrain pour travailler sur la question. Donc, bon.
Constat et ce que dit Kokoreff, c'est qu'il y a en France une consommation de cannabis à laquelle vient répondre un trafic extrêmement organisé. Voilà, donc est-ce que c'est vraiment un problème? Les nombres, en 2017, bon, c'est toujours les mêmes chiffres qui nous sortent d'année en année. Je les remets toujours en cause, je pense que le nombre est beaucoup plus élevé que celui-là, mais évidemment, comme on dit chez les fumeurs, vivons bien, vivons cachés, c'est la meilleure façon de pas avoir de problème. Donc, il y aurait 1,4 million de personnes qui fument régulièrement et 700 000 quotidiennement. Voilà, un Français sur quatre aurait fumé, ça fait quand même 25% de la population. Bref, la manne financière issue du trafic de stupéfiants favorise la multiplication des réseaux et des points de vente, indiquent les analyses du CIRASCO, donc c'est le service d'information et de renseignement d'analyse stratégique sur la criminalité organisée. C'était le dernier rapport d'octobre 2017. Voilà, donc 20 minutes continue. Il rappelle tous les chiffres. Donc 71 tonnes seulement de cannabis, 6 tonnes et demie de moins qu'en 2015. Voilà, donc il y a toujours des prises régulièrement. 180 tonnes au total ont été saisies en Méditerranée. Un enquêteur lillois dit on a l'impression d'essayer de vider la mer à la petite cuillère.
Ouais, chose qu'on a déjà entendue. Ouais.
Voilà, ils disent on n'en chope toujours que 10%. Alors est-ce que c'est 10%, 5%, 20%?
Ouais.
On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, malgré tout ce qu'ils prennent, les chiffres ne changent pas. Et les prix ne varient pas. Donc, a priori, ça ne doit pas changer grand-chose. C'est prévu dans les prix de vente actuels. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Kokoreff, c'est un peu ce qu'on a déjà dit, c'est que le trafic, c'est une usine ou une entreprise comme les autres, hein, et il y en a très peu qui gagnent beaucoup d'argent. La plupart, les vendeurs, les guetteurs, les nourrices, c'est des smicards du business. Ils se font peu d'argent et souvent ça paye à peine l'avocat en cas d'arrestation.
Sinon, voilà, le reste de l'argent, ils le flambent.
Ouais. C'est une main-d'œuvre qui semble inépuisable pour les têtes de réseau. Il s'agit souvent de jeunes broyés par un système scolaire qui ne voulait pas d'eux et qui n'ont en commun que la pauvreté et l'absence de perspective d'emploi. C'est assez intéressant la façon dont il dit ça. Et...
Voilà, donc là, ce qu'il dit, il ne sort pas d'un chapeau. Hein. Il y a eu une enquête très sérieuse, très fouillée, qui a été effectuée en 2013 pour l'ORDCS. L'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Hein, donc, c'est pas une invention de sa part hein, que dire ça.
Voilà. Et il est, ceux qui gagnent vraiment beaucoup d'argent sont minoritaires. Ouais. Voilà. C'est comme dans le business normal. Hein.
Il y a des...
Sauf que là, il n'y a pas de loi.
Pas de droit du travail non plus.
Voilà.
Pas de droits sociaux.
Et la seule concurrence, ça se passe à la Kalachnikov.
Voilà.
C'est pour ça qu'à Marseille, il y a eu 38 faits qui ont fait 51 victimes. Dans la région parisienne, 23 cas ont été recensés, donc c'était en 2016, et ça avait fait 25 victimes. Voilà, ça vient de la DPJ, de la Direction interrégionale de la police judiciaire. Bref, les dealers ont plus peur les uns des autres que de la police, poursuit les auteurs du rapport de l'ORDCS, je ne sais pas ce que c'est encore.
L'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux.
Voilà, qui souligne, nous vivons dans l'un des pays les plus récessifs et pourtant c'est l'un
de répressif, ceux... Répressif,
répressif,
pas récessif.
Et pourtant, c'est l'un de ceux où la consommation de cannabis est la plus élevée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça c'est Kokoreff qui dit ça, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire après?
Bon, on parle de la contraventionnalisation.
Voilà, ils arrivent un peu là-dessus. Ils rappellent que la réponse pénale, donc actuellement, n'est pas adaptée. Ouais, après, on en avoir parlé un petit peu. Hein, les peines, voilà, les tribunaux sont engorgés. Il y a des affaires beaucoup plus importantes à gérer que celles impliquant des consommateurs. Donc ça, on l'a dit, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ils vont contraventionnaliser, parce que ça devrait alléger tout le système, ce qui n'est pas encore gagné. Avec toutes les exceptions qu'ils mettent à côté. Bref, en tout cas, la procédure est si lourde que lorsque les policiers tombent sur une petite quantité de cannabis, ils préfèrent fermer les yeux, la confisquer, la jeter, qu'emmener les détenus et les interpeller devant un tribunal, etc. Ce qui leur fait perdre du temps, de l'argent, etc. Voilà, donc Michel Kokoreff estime donc que par contre la contraventionnalisation ne serait qu'une mesurette qui ne dissuadera pas du tout les usagers de cannabis d'en acheter. Donc c'est tout à fait ce qu'on voit, hein, c'est le seul intérêt de la contraventionnalisation pour le gouvernement, c'est d'alléger... De faire gagner du temps aux tribunaux et aux forces de l'ordre tout en faisant gagner de l'argent et sans changer du tout le système, tout en pouvant continuer de garder le contrôle social sur les jeunes, sur les minorités ethniques grâce au cannabis. Donc là-dessus, ça change pas. Ça va pas du tout dans l'idée d'éradiquer, de changer ou de changer les comportements par rapport au cannabis. Voilà donc ce que dit exactement Kokoreff. Il considère en revanche que lui dit qu'il faut légaliser le produit parce que ça permettrait d'assécher le trafic dans les cités, à l'État de contrôler la qualité du produit vendu, de gagner de l'argent et d'investir davantage dans la prévention. Donc les forces de l'ordre pourraient aussi se concentrer sur d'autres trafics qui ne sont pas aussi importants. Voilà, mais le débat conclut un peu l'article de 20 minutes. Je voulais le faire vite, mais je l'ai fait long quand même. Que le débat est impossible. La Fondation Terra Nova expliquait déjà en 2014 que la politique de répression est un échec en France et qu'il fallait faire autre chose. Ils pensaient, eux, préconisaient la légalisation de la production et la vente et de l'usage du cannabis dans le cadre d'un monopole public. Voilà, ça permettrait de fixer le prix à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui, de manière à garantir une relative stabilité du nombre de consommateurs et du volume consommé. Voilà, voilà. Mais en France, le débat est impossible.
En tout cas, jusqu'à maintenant, il l'est. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il termine. Bien, alors voilà, petit article, enfin gros article dans 20 minutes avec l'interview de Kokoreff. Et puis je te propose qu'on enchaîne tout de suite avant la petite coupure musicale sur un second article, une tribune dans Libération d'un sociologue lyonnais qui s'appelle Lilian Mathieu. Lilian Mathieu qui travaille beaucoup, voire essentiellement sur les questions de prostitution depuis plus de 20 ans. Et qui s'est fendu d'une tribune cinglante à destination des pouvoirs publics, donc dans Libération, c'était jeudi dernier.
Voilà, c'est intitulé « L'inefficace répression contre les drogues et la prostitution ».
Voilà, donc je vais le lire assez vite si ça te dérange pas.
Vas-y.
Donc l'article est vraiment bien tourné, en plus je trouve que ça vaut le coup de le lire. Donc... La France a choisi de pénaliser les usagers de drogue, les prostituées et leurs clients. Le bilan de cette approche répressive menée depuis plus de 40 ans est désolant. Prévenir et accompagner sont les seuls moyens de lutter contre les risques. La catastrophe invisible n'est pas qu'une sociologie de l'héroïne. Alors la catastrophe invisible, c'est un livre qui est paru très dernièrement et qui a été écrit notamment par Anne Coppel. Voilà, je voulais le dire quand même. Anne Coppel qui est sociologue également. Donc cette catastrophe invisible n'est pas qu'une sociologie de l'héroïne, elle présente aussi un dossier à charge contre l'imbécilité meurtrière de la politique française en matière de drogue. Avec 40 000 décès entre 70 et 2005, le réquisitoire est accablant contre la loi du 31 décembre 70. Adopté après 1968 par une droite revancharde et renforcée dans les années 80 par une gauche démagogue, elle a condamné la toxicomanie à la clandestinité et favorisé les dérives délinquantes, les empoisonnements aux produits frelatés et des milliers de contaminations par le sida et les hépatites. Combien de pertes humaines a-t-il fallu subir avant que soit adoptée la vente libre des seringues, la réduction des risques, la substitution et les salles de shoot ? Alors, avant les salles de shoot, hein, tout ce qui a été cité là, c'est grâce à Simone Veil, il faut le reconnaître. Ce bilan désolant devrait mettre en garde devant toute tentation de répondre aux problèmes sociaux par l'intransigeance. Adopter elle aussi avec des froncements de sourcils et des roulements d'épaules, la loi d'avril 2016 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel pourrait faire concurrence à celle de 1970 en termes de bêtises satisfaites. La lutte contre la drogue s'appuyait sur un double volet pénal, la prison et le médical, l'injonction de soins pour contraindre à l'abstinence. La politique en matière de prostitution entend viser son abolition via un double volet pénal, la pénalisation des clients, et social, les parcours de sortie de la prostitution. Deux ans après son entrée en vigueur, c'est plus que sa nocivité et la vacuité de cette politique qui saute aux yeux. La prohibition de l'achat de services sexuels fait sur le territoire l'objet d'une application différenciée, surtout dépendante des sensibilités locales à la visibilité des prostituées, et la police se défend de son indolence répressive en arguant avec bon sens qu'elle a d'autres priorités que verbaliser le queutard à la sortie des camionnettes. L'abrogation du délit de racolage n'a pas suscité le retour des prostituées dans les centres-villes d'où elles avaient été chassées après son rétablissement en 2003. Quelle en frappe l'offre ou la demande, la sanction des transactions sexuelles a toujours le même effet. Leur déplacement dans des zones discrètes, maintenues en périphérie urbaine et en bordure de route, les prostituées peuvent bien hurler en cas d'agression, l'important reste qu'elles n'importunent pas les riverains. Le bilan du volet social de la loi est plus dérisoire encore puisqu'il s'élevait fin 2017 à une trentaine de parcours de sortie. Sachant que les promoteurs de la loi évaluent les effectifs prostitués à 40 000 personnes, on se dit que l'abolition va prendre un certain temps. Appréciant la réelle motivation des personnes à cesser leur activité, le dispositif a tout d'un effet d'aubaine qui facilite la sortie de celles qui avaient de toute façon décidé de se réinsérer, mais évince les plus fragiles, celles qui ont le plus besoin d'aide mais sont incapables de se projeter dans un avenir à moyen terme. Quant au titre de séjour promis aux étrangères qui renonceraient à leur activité, ils ont tout l'air d'une sinistre blague quand on sait la réticence des préfectures à les délivrer. Le retour au pays reste le seul horizon prévu et l'ambition d'abolition de la prostitution dissimule mal une chasse aux migrantes ou une chasse aux femmes migrantes indésirables.
Vacuité plus que nocivité, voire. Certes, en France, la prostitution n'a pas été autant touchée par le sida que dans d'autres pays. C'est en large partie grâce à l'addiction,
grâce l'action
de santé communautaire menée par des associations dont l'État s'acharne aujourd'hui à réduire les moyens. Peu visible, les conséquences sanitaires de la précarité dans laquelle sont maintenues les prostituées et n'en sont pas moins réelles. Réelle aussi leur exposition aux agressions, dont la fréquence s'accroît à mesure de leur stigmatisation. Alors qu'on s'élève 120 battements par minute, il faut rappeler qu'ACT UP a toujours fait preuve de pragmatisme lucide dans son refus prohibitionniste, en matière de drogue comme de prostitution. Consommation de stupéfiants et vente de prestations sexuelles ont en commun d'être des conduites régies par la contrainte, celle de l'addiction ou de la détresse économique. Les combattre en les entravant ne conduit pas à leur disparition, mais à leur maintien sous des formes plus clandestines et plus dégradées. Qu'elles soient démagogiques ou de bonne foi, l'intransigeance coercitive est incapable de comprendre ce paradoxe pourtant fécond. C'est en facilitant les conduites imposées par la nécessité qu'on peut espérer desserrer l'étau de la contrainte et permettre à celles et ceux qui s'y adonnent d'envisager de les réduire, voire de les abandonner. Les féministes favorables à l'adoption de la loi contre le système prostitutionnel devraient méditer les leçons historiques d'une autre conduite régie par la nécessité. S'il fallait légaliser l'avortement, ce n'est pas parce que son interdiction empêchait d'y avoir recours. Il était possible, mais dans une clandestinité et une insalubrité qui mettaient en danger la santé, quand ce n'est pas la vie des femmes qui avaient d'autres choix que d'y recourir. La légalisation n'a pas provoqué une explosion du nombre des IVG, mais une chute des septicémies et des hémorragies. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, donner des seringues aux héroïnomanes et des préservatifs aux prostituées améliore leurs conditions de vie sans exiger qu'ils ou elles renoncent immédiatement à leur conduite, reconnaître leur autonomie sans prétendre exercer de tutelle sur leur existence sont les seuls moyens de leur laisser entrevoir la possibilité d'un avenir autre, éventuellement sans drogue ou loin des trottoirs.
Voilà pour cette tribune de Lilian Mathieu dans Libération jeudi dernier. Allez, musique.
At least I knew how to dress for
C'était un live de The Do qui date de 2011, un retour pour les dernières minutes de Cannabis Circus.
Voilà, eh bien, nous revoilà donc en direct toujours dans Cannabis Circus pour cette presque 10 minutes, dizaine de minutes qui nous restent. Alors, on va s'intéresser maintenant à un article de West France qui nous explique que, en ce qui concerne le cannabis, ben maintenant les Pays-Bas veulent légaliser en fait la culture pour éviter le trafic. Il faut savoir que, alors, c'est pas dit dans cet article, hein, mais j'ai lu un autre article il y a pas longtemps où ils expliquaient que les Pays-Bas étaient gangrénés par les réseaux de trafiquants de drogue qui n'étaient plus trop poursuivis depuis ces dernières années. Et je me demande si cette volonté de vouloir légaliser la culture du cannabis, en tout cas, c'est pas aussi pour contrecarrer en fait cette expansion de certains réseaux criminels bataves en fait. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas si les pouvoirs publics hollandais cherchent à mettre un peu de cohérence et de rationalité dans leur politique des drogues. Hein, en tout cas, au niveau du cannabis, c'est plutôt bien.
Oui, parce qu'il faut rappeler que le cannabis est toujours, il est toujours interdit d'en faire pousser au
c'est
Hollande.
Pas,
hein.
C'est pas légal. S'il y a une tolérance,
voilà,
hein, une zone grise. Hein,
tout à fait. Donc les coffee shops ont le droit d'en avoir un petit peu, jusqu'à 500 grammes en stock. C'est pas énorme. D'en vendre jusqu'à 5 grammes par personne.
Et pas plus, ouais.
Et pas plus, voilà. Et pourtant, c'est toujours interdit d'en cultiver. Et d'ailleurs, quand il y a eu de la neige il y a pas longtemps, ils ont arrêté 2-3 personnes puisqu'on voyait leur plan sous les toits.
Sous les toits enfin, on voyait le toit qui n'était plus enneigé en fait à l'endroit où il y avait les lampes.
Voilà. Et donc là, c'est bien. Ils ont décidé d'avancer un peu. Et de se dire que quand même ils étaient un peu à la traîne et que leur loi était quand même un peu hypocrite et ambiguë. Voilà, parce que si on peut en vendre, il faut en fournir. Donc à un moment, il y a un truc qui va pas, quoi. Ils veulent faire quelque chose donc, pour que les coffee shops ne soient pas obligés de se fournir auprès des criminels. Voilà, ils aimeraient avancer là-dessus et donc légaliser la culture pour qu'il y ait enfin une zone ou quelque chose de logique, et pour qu'on puisse trouver de l'herbe tranquillement, pour que faire sortir les Pays-Bas de la zone de la plaque tournante du cannabis en Europe, comme ils le disent. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose?
Non, on en reparlera sans doute prochainement, donc je n'ai rien à ajouter, on verra plus tard.
Sinon, c'est le Figaro qui parle des étudiants.
C'est le Figaro étudiant.
Étudiant, voilà, qui parle
c'est
des.
Un Figaro
des...
madame, mais un Figaro étudiant aussi.
Très bien, je suis passé courant. Ça, c'est presque, je l'achète quand même.
Tu crois que moi, je les achète, moi?
Les universités canadiennes se lancent dans la culture du cannabis.
Enfin, une université, en tout cas, là, celle qui est citée, c'est McGill. La prestigieuse université de Montréal qui vient d'ouvrir un diplôme entièrement dédié au cannabis, justement. Donc, le docteur Anya Gaitman, doyenne de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement de l'université McGill, qui a donc déclaré sur la chaîne TVA Nouvelles « L'industrie du cannabis légal aura besoin de travailleurs spécialisés pour travailler dans les centres de production. Et en ce moment, il y a très peu de formation pour eux. » D'où l'idée de mettre en place une formation.
Et un diplôme entièrement dédié au cannabis.
Et donc, cette université veut former, je cite, la prochaine vague de maîtres cultivateurs, des gens donc, qui seront responsables des serres. Une nouvelle sorte de diplôme d'agriculteur spécialisé, donc. Ah, je croyais que tu allais suivre, et tu allais poursuivre, je suis désolé. Donc, le département que dirige Anya Gaitman a donc organisé une première série d'ateliers sur les meilleures pratiques de production et de contrôle de la qualité pour l'industrie qui débuteront à partir du mois de mai. Voilà. Et ensuite, l'université ouvrira un parcours spécialisé qui devrait ouvrir ses portes lors de la session d'hiver 2019 et il débouchera sur un certificat professionnel spécialisé en culture du cannabis. Le programme, encore au stade de la planification, durera jusqu'à un an et sera ouvert à ceux qui ont déjà fait des études en horticulture ou en biologie végétale. Et elle rajoute, Anya Gaitman, on vise les gens qui ont déjà des qualifications dans ce domaine. On ne veut pas nécessairement former celui qui va arroser les plantes, mais plutôt celui qui va gérer les serres, l'utilisation des pesticides et les plantations, par exemple.
Voilà, c'est vraiment travailler et démystifier la plante et avancer, s'associer avec des formes de cannabis pour cultiver sur le campus à des fins de recherche et de formation. Voilà, il y a d'autres établissements canadiens qui ont déjà fait ça, donc ils sont plusieurs. Et ils veulent même passer des contrats avec les producteurs, parce que le but du jeu, c'est quand même, le but du jeu aussi, c'est de faire des études, de former les gens, mais aussi de faire de la recherche. Et donc d'améliorer les types d'éclairage à DEL, donc ça doit être les LED, je pense, oui, forcément. À essayer d'augmenter la productivité des plantes cannabis, de réduire les temps de floraison, etc. Donc il y a quand même des recherches assez poussées. Et ils vont même plus loin parce qu'ils se disent que si on peut, ils concluent comme ça, si on peut réduire le coût pour faire pousser les plantes dans les entrepôts, on peut faire des légumes aussi qui sont plus goûteux et plus sains pour tout le monde toute l'année. Donc c'est-à-dire que tout ça, ils veulent le développer sur toutes les plantes.
À fruits ou à fleurs ?
À fruits ou à fleurs, tout à
d'accord.
Fait.
Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors maintenant, vous avez le choix, parce qu'il y a McGill à Montréal, mais il y en a d'autres aussi. Et puis, il y a également l'université Amsterdam en Californie, à Oakland. C'est une université spécialement dédiée à la culture du cannabis ou à la connaissance sur la marijuana, qui a ouvert déjà depuis au moins 3 ou 4 ans. Hein. On en a déjà parlé quelques fois. Donc voilà. Futurs étudiants et étudiantes, si le cannabis vous intéresse, si vous avez envie de devenir des maîtres dans la culture du cannabis, eh bien, inscrivez-vous à l'université McGill ou éventuellement à l'université Laval au Québec. Voilà. Maintenant, on...
Juste pour finir, on va parler de ce petit festival. Un festival organisé par la famille Marley, donc pour défendre le cannabis. C'est 5 des fils de Bob Marley qui ont annoncé la tenue pour la première fois sur la côte ouest du festival Kaya en Californie. Donc le Kaya, c'est comme ça qu'ils appellent l'herbe entre eux, a priori. Voilà, ils ont toujours été des défenseurs de l'herbe et l'utilisation de cette plante pour le bien de l'humanité. Tous les miracles ne viennent pas du ciel, certains miracles viennent de la terre.
Alors, en tout cas, quand on voit la programmation musicale, je vous cache pas que ça fait un petit peu envie. Festival donc de deux jours, mettant en vedette donc les cinq frères Marley et leurs invités. Donc il y aura Lauryn Hill, par exemple, mais il y aura aussi Cypress Hill et Tom Morello, un ancien de Rage Against the Machine, qui maintenant avec Prophets of Rage, un mélange entre des gens de Rage Against the Machine et de Public Enemy et de Cypress Hill. Donc ça se déroulera tout ça à San Bernardino en Californie. Et du coup, ben, ça fait envie, franchement. J'aimerais bien y aller, quoi, je vous cache pas. Je pense que je dois pas être le seul. En tout cas, voilà, si vous avez envie d'aller, d'aller là-bas participer à ce festival, ben, en tout cas, allez-y, quoi. Ça a l'air sympatoche. J'arrive pas à savoir quand ça va se faire, ou tu l'as déjà dit.
28 et 29 avril prochain.
Ah voilà, 28 et 29, fin avril, donc dans un mois, quoi.
Tout à fait. Voilà. Donc le festival Kaya de l'herbe de la musique est une fierté incommensurable pour leur paternelle.
Voilà, Bob, en l'occurrence. Voilà, donc c'est, alors juste, c'est un article de Rolling Stone. Voilà, donc un journal plutôt qui s'intéresse aux mouvements sociaux et à la musique. Eh bien, une fois de plus, cette semaine, nous n'aurons pas eu le temps de d'aborder l'article de Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police, qui nous parlait de la mise en place de la loi de contraventionnalisation. Mais on vous le promet, la semaine prochaine, on va en parler et on en parlera plutôt dans l'émission. C'est un gros article, alors on se dit on le regarde pour la fin, puis on n'a pas encore eu le temps
voilà,
d'en parler.
Il fait 4 pages, alors il faut qu'on le travaille bien pour pouvoir le résumer, pour sans déformer trop ses propos, essayer d'en ressortir la substantifique moelle.
Voilà, donc c'est la fin de Cannabis Circus. Avant de nous quitter, de laisser la parole et la musique libre à Chasseurs de Sons, juste pour vous rappeler que Cannabis Circus est animé par le Cirque Lyon. Vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07. Que c'est toujours le moment de réadhérer au cirque ou d'adhérer tout simplement. Je vous informe que nous serons présents le 7 mai à la salle des fêtes de Caluire pour une soirée Rockers Nation numéro 7. Sinon, tenez-vous prêt pour la marche mondiale du cannabis qui déroulera à Lyon le samedi 12 mai. Et pour l'appel du 10 juin, on en reparlera plus tard. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus. Maintenant, c'est Chasseurs de Son. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Et merci, au revoir.